Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
C'est reparti donc pour une saison de santé en partenariat avec Santé publique France. Et nous parlons aujourd'hui de la e-santé au service des plus isolés. La e-santé regroupe à la fois les applications numériques au service de la santé et du bien-être des personnes, mais aussi la télémédecine, c'est-à-dire qu'un patient est mis en relation à distance grâce à Internet avec un professionnel de santé et la gestion des données médicales. Alors, compte tenu de l'augmentation des maladies chroniques, du vieillissement de la population ou encore des exigences accrues des patients en termes de soins, l'utilisation d'applications numériques se développe de plus en plus. Déjà plus de 45% des Français déclarent en utiliser dans leur vie quotidienne. La e-santé pour qui, pourquoi, comment? On en parle ce matin avec nos invités. Monsieur Yannick Le Guen, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de la stratégie de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et nous rejoint sur le plateau notre monsieur e-santé sur Africa numéro 1, c'est Salah Edingaku. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, bien comprendre ce terme qui est un petit peu nouveau, on va dire entre guillemets, comment on pourrait définir la e-santé? Alors, l'OMS dit que la e-santé se définit comme les services du numérique au service du bien à la personne. Est-ce que vous avez un petit complément de définition, Yannick Le Guen? Bonjour.
Oui, non, mais on ne peut pas donner meilleure définition que celle de l'OMS, mais en fait, la e-santé au sens large, c'est d'abord pour que les patients, les usagers, les citoyens puissent s'informer et s'orienter de manière un peu globale, plutôt dans une perspective et dans un objectif de prévention. Donc effectivement, ça passe par des applications mobiles, mais ça passe aussi par des objets connectés. Vous pouvez surveiller votre poids. Mais de manière un peu large, et pour distinguer par rapport à la télémédecine, il n'y a pas de professionnel médical qui engage sa responsabilité sur ces applications de e-santé, à la différence de la télémédecine, où là, il y a un médecin forcément, qui engage sa responsabilité.
Alors, il est bien justement important de faire la différence entre les applications numériques et la télémédecine ou la téléconsultation. On y revient dans un instant. Mais concernant les applications, il y a eu ces dernières années, ces derniers mois, un boom en ce qui concerne l'offre des applications santé. Il en existe plus de 325 000 des applications mobiles de santé qui sont disponibles sur les différentes plateformes de téléchargement dans le monde. Alors ça, là, ça fait quelques mois déjà que tu es devenu un spécialiste de ces applications. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous parler de l'offre générale?
C'est vrai que depuis de plus en plus, il y a des nouvelles applications qui sont créées, et tu l'as bien expliqué, par rapport notamment aux demandes et aux exigences des Français. Mais surtout, la e-santé et les applications notamment facilitent le travail, notamment quand il y a des échanges de données, tout ce qui est aussi autour de la géolocalisation. Mais c'est parfois aussi un coach, tout simplement, un coach de motivation par rapport notamment à la cigarette. Je pense à l'application Smoker Stop, qui aide les gens à arrêter de fumer, qui leur rappelle combien ils ont économisé en arrêtant de fumer, notamment. Il y a aussi pour toutes les maladies comme le diabète. On sait très bien que il y a besoin de suivi. Il y a Diabète Care, par exemple, qui est réservé aux patients sous insuline, qui est complet, qui propose un carnet notamment à glycémie. Il y a Diabète Gourmand, qui est une application où on partage des recettes, notamment où on peut envoyer une photo d'un aliment et savoir est-ce que c'est bon ou pas de le consommer. Il y a vraiment plein de types d'applications. Il y a aussi de la prévention avec ActiveDo, qui est une application qui explique en gros les bonnes positions à prendre pour ne pas avoir mal au dos. Ça, c'est une application qui est notamment développée par l'assurance maladie. Il y a beaucoup de types d'applications qui finalement aident au quotidien. Et aussi, ça aide, par exemple, pour l'application DrepaCare, qui est une application par rapport à la drépanocytose, qui est finalement, à part les aspects conseils et notamment suivi, qui est aussi un vrai réseau social pour ceux qui sont atteints de la drépanocytose. Parce que quand on est malade, on se sent souvent seul. Et ce type d'application, notamment, crée un peu une sorte de fraternité entre les malades. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que l'application vient au service des malades.
Alors, je pense qu'il doit y avoir un petit peu tout dans cette offre d'applications mobiles. Justement, Yannick Le Guen, ce qui est important de rappeler, c'est que l'ARS n'a aucun regard particulier sur les applications numériques. Elles ne sont pas labellisées. La certification concerne juste la télémédecine et la téléconsultation. C'est-à-dire qu'il peut avoir un petit peu de tout. Je peux me lever demain et dire, je mets en place une application santé, même si je ne suis pas une professionnelle de santé. santé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes simplement soumise aux obligations du Code du commerce. Vous êtes suivi par la concurrence et la répression des fraudes, mais vous n'avez pas de contrôle au sens médical et de santé. Nous, les contrôles exercés par l'État, c'est bien sur la partie télémédecine, où effectivement l'État s'assure que le médecin il a le bon diplôme, que les données elles sont hébergées dans des endroits très particuliers, puisque ce sont des données médicales, et donc il faut être hébergeur de données de santé. Donc les tiers technologiques qui hébergent ces données sont particulièrement suivis compte tenu de la sensibilité des données. Vous n'aimeriez pas, vous ou moi d'ailleurs, que vos données médicales soient accessibles sur Internet. Donc ça requiert des niveaux de sécurité bien supérieurs à ceux des applications qu'on évoque par ailleurs.
Alors justement, comment je peux être sûr lorsque je télécharge une application que les conseils qu'on va me donner sont de bons conseils et que ça ne va pas être dommageable pour ma santé, par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, dans quelques temps, d'avoir des autorités pour réguler justement ces applications?
Alors, c'est un problème extrêmement compliqué. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a environ 200 applications qui sortent par jour. Donc, vous imaginez, en termes de contrôle, l'État ne peut pas intervenir a priori sur tout. Par contre, s'il y a des auditeurs qui constatent que dans une application, il y a certaines informations tendancieuses, là, il peut saisir effectivement les services de répression des fraudes de manière à ce que l'application soit enlevée du marché.
Si un mot à ça.
Après, juste par rapport aux applications, notamment dans la santé 2.0, dans le journal de la santé, la plupart des applications que j'ai sélectionnées tout au long de l'année, parce que ça fait un an qu'on a commencé, ouais, des applications qui sont développées en grande majorité en partenariat avec des médecins. Ça leur facilite le travail avec des hôpitaux.
Et toi, en fait, quand tu sélectionnes une application dont tu veux parler, est-ce que tu vérifies là les sources?
Je regarde qui a lancé l'application. C'est ça mon plus gros travail, c'est je regarde qui a lancé l'application. Et souvent, c'est des médecins. La semaine dernière, c'est une application, c'était des médecins corses. Ouais. Donc je regarde en général qui a lancé et comment ça a été lancé en général. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément une application qui n'aura aucun dommage entre guillemets, mais en tout cas, la plupart c'est une démarche qui facilite finalement le travail des médecins et des hôpitaux, et même par rapport à la télémédecine, finalement on gagne un temps fou, même si on rappelle à chaque application, une application ne remplace pas une consultation chez un médecin, ça on le dit presque toutes les semaines, mais ça, on gagne du temps et les médecins gagnent du temps, et surtout c'est une manière de communiquer plus simplement.
Oui. Juste pour compléter, effectivement, ce qui est très intéressant dans ces applications, c'est que ça renforce le pouvoir d'agir individuel des gens.
Ouais.
Ils s'intéressent beaucoup plus à leur prise en charge, ils ont tout un tas d'informations, et effectivement, ça fait un travail préparatoire, préalable, pour mieux connaître sa pathologie, sa maladie, et ça donne un certain nombre de questions. Je voudrais juste signaler que l'État également produit des applications, donc j'engage tous les auditeurs à télécharger santé.fr, qui va vous permettre d'avoir des informations validées.
Ouais.
Non commercial, c'est-à-dire validé par des autorités indépendantes, même du ministère, et qui leur permettent de s'orienter dans le système de soins francilien. Donc santé.fr.
Voilà. Merci pour cette recommandation. Alors parlons à présent de la télémédecine ou de la téléconsultation. Alors c'est quoi?
En fait, la téléconsultation, c'est une modalité particulière de consultation. Donc vous avez nécessairement un médecin qui est au bout, si j'ose dire, d'Internet, et qui a un dialogue avec vous, soit pour faire un diagnostic, soit pour faire un suivi, soit pour vous donner un conseil. Si par exemple, je ne sais pas moi, si il vous a prescrit un résultat d'examen, eh bien vous pouvez, par téléconsultation, avoir son interprétation. Alors bien évidemment, la téléconsultation ne permet pas la totalité d'un examen clinique, hein, en présentiel, mais ça permet déjà d'aborder beaucoup de choses. Ça permet aussi de rassurer les parents, par exemple, qui peuvent être inquiets sur une fièvre. Enfin, ça peut permettre d'éviter un transport, ça peut permettre d'éviter d'aller engorger les urgences. Et pour nous, de manière un peu globale, ça permet de faciliter et d'accélérer parfois l'accès dans certaines zones où on sait bien qu'il y a des difficultés d'accès aux soins. Ça peut permettre d'accélérer, si j'ose dire, le fait d'avoir accès à un médecin, à un spécialiste, qui c'est pas forcément toujours évident de l'avoir dans la zone dans laquelle on réside.
Alors justement, vous venez de le dire, hein, puisque 6 Français sur 10 ont déjà dû renoncer à consulter un professionnel de santé à cause de soucis, par exemple, de temps, de proximité. 38% ont attendu trop longtemps avant de consulter. Donc voilà les bénéfices, on va dire, de la télémédecine et de la téléconsultation. Alors justement, on va présenter et suivre Alexandre Maisonneuve, cofondateur de CARE et directeur médical. Alors CARE, c'est un service de télémédecine qui s'est lancé en France en novembre dernier. Ce site permet de réaliser des consultations illimitées en vidéo avec des médecins 7 jours sur 7. On l'écoute et on se retrouve juste après.
CARE, très simplement, c'est une solution de téléconsultation. Ça permet à des patients d'être mis en relation avec leur médecin via une solution numérique. Donc CARE est accessible soit sur ordinateur, soit sur smartphone ou tablette. Vous vous connectez sur care.fr, vous avez accès à un certain nombre de médecins, vous sélectionnez l'heure de rendez-vous et à l'heure dite, un quart d'heure avant, on vous fait un petit rappel pour vous rappeler de vous connectez, vous êtes mis en relation avec votre médecin. Pour le règlement, le patient a enregistré ses coordonnées de carte bleue, donc il y a une préautorisation qui est faite en début de téléconsultation. Le règlement n'est effectué qu'à la fin, lorsque le médecin valide la facturation et l'envoi de la feuille de soins pour que le patient puisse être remboursé ensuite. La sécurité sociale a considéré que les tarifs devaient être les mêmes qu'en cabinet, donc on le fait également. Seuls les praticiens auxquels vous avez accès, finalement, ont une vue sur votre dossier médical. Nous sommes une société française, nous sommes installés en France, nous dépendons de la réglementation française. Donc tout ce qui est données de santé est hébergé chez un hébergeur agréé données de santé. De la même façon, nous vérifions que les médecins soient tous bien enregistrés en France. N'importe qui ne peut pas s'inscrire comme médecin, bien évidemment. Donc ça, c'est notre travail de le vérifier en amont. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout se passe sur un espace sécurisé. Donc le dépôt de l'ordonnance se fait sur votre espace sécurisé. Vous, en tant que patient, vous pouvez la récupérer ensuite. Elle comporte un flashcode, cette ordonnance, qui permet aux pharmaciens de le flasher, de vérifier que l'original qui a été émis par le médecin est bien le même que celui qui est présenté par le patient en pharmacie. Donc elle est doublement sécurisée. La moitié des patients qui utilisent notre solution de téléconsultation la réutilisent l'année suivante.
Petite réaction peut-être, Yannick Le Guen.
Oui, on voit bien tout le potentiel effectivement de la télémédecine pour effectivement favoriser cet accès aux soins. On voit bien aussi que le sujet est d'abord aussi un sujet de confiance. Il faut que les usagers ils aient confiance. Il faut qu'ils soient bien sûrs que c'est bien un médecin avec le bon diplôme qui est derrière, si j'ose dire, les écrans. Ça, c'est pas évident. Donc, il y a tout un ensemble, effectivement, de régulation qui est extrêmement important de manière à pouvoir rendre ce service. Alors, vous voyez également que c'est pas si simple comme ça que ça, puisqu'il y a le sujet du paiement, de la feuille de soins, du remboursement, puisque, effectivement, depuis septembre, l'assurance maladie rembourse comme une consultation classique, hein, l'acte de télémédecine, sous réserve, bien évidemment, que le médecin traitant connaisse la personne, c'est-à-dire qu'il l'ait vu en présentiel au moins 12 mois avant.
Oui, physiquement ?
Physiquement, oui, en présentiel, oui. Ça ne doit pas être un inconnu, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'il engage sa responsabilité, donc il faut aussi qu'il connaissent un peu les antécédents. Donc tout ce cadre-là doit se déployer, mais avec effectivement avec mesure et dans le respect du parcours de soins. Mais bien évidemment, on voit bien que tout ce que ça peut apporter pour faciliter l'accès, pour les pédiatres par exemple, ou pour la gynécologie, pour la psychiatrie, on voit bien que c'est une nouvelle modalité qui va faciliter la transformation de notre système de santé.
Est-ce que ça ne risque pas de déshumaniser la médecine ? Parlons ensuite de l'encadrement autour de ces dispositifs. Quels sont les encadrements autour de ça ?
Oui, vous avez raison, le sujet de la déshumanisation est un sujet extrêmement important. C'est pour ça que ce qui est dans la réglementation, c'est que le médecin voit à intervalles réguliers le patient. Ça peut servir de suivi, mais on ne peut pas avoir une relation avec un médecin uniquement par voie virtuelle, si j'ose dire. Donc ce qu'il y a dans la réglementation aujourd'hui, c'est qu'à intervalles réguliers, il doit y avoir une consultation physique entre le médecin et son patient. pour éviter justement ce sujet de la déshumanisation. Sur le sujet du contrôle, vous avez raison, c'est un sujet extrêmement important. Et donc, il y a des contrôles très forts sur la partie hébergement des données de santé. Mais
dans le choix des médecins également.
Et dans le choix des médecins. Alors d'abord, il y a toujours la liberté de choix. La liberté de choix par le patient. On ne peut pas imposer que ce soit tel ou tel médecin qui soit en téléconsultation. Donc c'est un élément extrêmement important.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas moins cher? Pourquoi c'est les mêmes prix que lorsqu'on se déplace?
Oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement a voulu mener une politique incitative au déploiement de la télémédecine. Donc pour commencer, on sait bien que ça revient effectivement en termes de coûts un peu moins cher, mais pour faciliter le déploiement, il y a une politique incitative, si j'ose dire, de remboursement.
Ça a l'air un complément, qu'est-ce que tu veux dire?
Non, je pense que c'est par exemple, pour moi, ma mère, elle fait souvent des examens de santé, elle prend par exemple des prises de sang assez régulièrement. Ouais. Je pense que pour montrer les résultats, pour ce type de choses, c'est vraiment efficace, la télémédecine, parce que bon, moi, dans ma ville, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde. Il y a une partie sans rendez-vous, une partie avec rendez-vous, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde chez le médecin.
Il y a des spécialistes qui sont un peu...
Voilà, il y a des... Et je pense que pour les déserts médicaux et pour désengorger tout simplement certains cabinets, je pense que la télémédecine, c'est un peu l'avenir en quelque sorte, même s'il ne faut pas déshumaniser la relation avec le médecin, je pense.
Alors, il y a un autre élément extrêmement important en complément, et pour faciliter en particulier l'accès à la télémédecine pour des populations qui ne sont pas toujours hyper à l'aise avec le numérique. Il y a un nouveau cadre réglementaire aussi qui permet aux pharmaciens qui le souhaitent de mettre en place un environnement sécurisé qui permet aux gens en proximité de venir dans une pharmacie. Le pharmacien s'occupe, si j'ose dire,
de la mise en relation,
hein, c'est de l'intermédiation, si j'ose dire, et la personne peut faire sa téléconsultation au sein de la pharmacie, ce qui permet aussi pour certaines populations. D'abord, il y a des pharmacies, il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y en a beaucoup plus que de cabinets médicaux, donc c'est plus facile. Et par ailleurs, on connaît aussi son pharmacien.
Complètement.
Et on a confiance, donc ça permet, cette intermédiation permet aux différentes populations qui ne sont pas nativement, si j'ose dire...
Même les personnes âgées qui ont du mal à se connecter, par
tout
exemple.
À fait, tout à fait. Donc ça leur facilite la vie. Et le pharmacien est rémunéré, effectivement, également pour cette intermédiation.
Alors, au téléphone, c'est une auditrice, c'est Laetitia. Bonjour, merci de nous rejoindre, Laetitia.
Bonjour.
Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, donc je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est vrai que moi, je suis en région parisienne et j'ai voulu consulter un médecin avec la télémédecine, mais c'est vrai que c'est délicat de passer le cap, de ne pas avoir une personne, en fait, en face de soi, quoi.
Qu'est-ce qui vous a gêné, en fait, pour qu'on puisse bien comprendre? Quand vous dites c'est difficile de passer le cap...
Bah, c'est difficile d'être en face d'un ordinateur et pas en face du médecin qui est là pour nous ausculter en direct, quoi. C'est vrai que c'est pas évident et moi je pense que ce serait on a l'impression que même le médecin tout devient informatisé, quoi, et même en fin de compte, la consultation chez les médecins...
Mais en fait, donc, vous avez réalisé cette consultation via l'ordinateur. Et comment ça s'est passé?
Bah, écoutez, j'ai pu dire les symptômes, en fait, au médecin, mais j'avais quand même l'impression que c'était... j'étais pas totalement satisfaite de ma consultation, en fait, parce que la personne n'était pas en face de moi. Peut-être c'est à cause de l'habitude, je pense, mais...
Et est-ce qu'elle vous a donné les solutions pour parvenir à la guérison de votre problème?
Bon, elle m'a donné quelques solutions, mais moi, je pense que, en tout cas, personnellement, je pense que je préfère avoir le médecin en face de moi.
Et Yannick Le Gouin, vous voulez dire quelque chose à cette auditrice?
Non, mais je comprends l'auditrice. Après... c'est ce qu'on a évoqué sur certains cas, par exemple l'interprétation des examens qu'on avait eus. On voit bien que ça peut permettre de faciliter, éviter aussi des déplacements. C'est pas toujours évident pour tout le monde, en particulier en Île-de-France, de se déplacer, d'attendre longtemps dans un cabinet. Mais la téléconsultation ne remplacera pas le lien direct. Il faut effectivement voir régulièrement, de toute façon, son médecin. Mais dans certains cas, c'est une modalité qui peut faciliter un accès plus rapide.
Merci en tout cas pour votre appel, Laetitia.
Merci
beaucoup. À très bientôt. Alors, on va profiter des dernières minutes pour parler de la télémédecine qui serait une vraie alternative de santé pour l'Afrique et notamment les régions les plus isolées. Alors, nous avons posé des questions à ce sujet au docteur Jean Michon. Il est oncologue pédiatrique de l'association le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique responsable de la e-santé. On l'écoute autour du sujet et on se retrouve juste après.
Concrètement, la e-santé se matérialise par des connexions informatiques que nous mettons en place avec les équipes sur le terrain, de manière à ce qu'elles puissent participer à des réunions de travail communes, qui sont soit des réunions sur des cas, soit à des réunions sur des protocoles ou des modes, donc des modes de traitement des cancers de l'enfant. Ça se matérialise pour l'instant sur trois pays, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est clairement un positif comme accueil, en même temps c'est un chamboulement, parce que ce que ça veut dire d'être connecté à d'autres équipes, c'est qu'on ouvre ce dossier à discuter avec d'autres personnes pour mettre en commun une réflexion pour le traitement des patients. Et ça, dans la médecine en général, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut que les gens puissent arriver à percevoir le bienfait qu'il y a de ce dialogue. Les médecins ayant l'habitude de prendre leurs décisions le plus souvent seuls, alors qu'en cancérologie et en particulier en cancérologie pédiatrique, le dialogue avec d'autres spécialistes est très importante pour la décision thérapeutique. Alors, la e-santé va ouvrir d'autres manières de participer à la formation. On espère bien pouvoir mettre en place des tutoriels pour un certain nombre de pathologies auxquelles pourront accéder les équipes lorsqu'ils seront mis en ligne. On envisage dans l'année 2019 de mettre en place des tutoriels de thérapeutique. Le GFOP a été créé évidemment en 2000 à une époque où la circulation d'informations passait beaucoup par le déplacement. La e-santé nous ouvre une autre porte qui est la confrontation en temps réel ou en différé sur des dossiers, de manière à ce qu'il y ait des avis d'experts qui soient donnés, à ce qu'il y ait des débats entre des médecins de différentes régions. C'est une révolution, mais cette révolution doit pouvoir aussi s'appuyer sur l'acquisition de moyens numériques en Afrique.
Alors, on voit bien que la télémédecine est un formidable espoir pour le développement de l'accès aux soins des populations, notamment en Afrique subsaharienne. On le voit bien avec le témoignage du docteur Jean Michon. Et surtout, cette possibilité d'améliorer la formation des équipes, casser les frontières et permettre de meilleurs échanges entre les médecins. Alors, quelle est votre réaction, Yannick Le Guen, à ce reportage?
Oui, on voit bien qu'effectivement, au-delà de le fait d'avoir des échanges, ça va permettre un partage entre professionnels. Effectivement, ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou en France. Hein. Le sujet d'avoir que tout le monde, à un moment donné, qui fait partie du cercle de santé, du cercle de soins d'un patient, ait accès aux mêmes informations au même moment, c'est quelque chose, c'est un plus, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une vraie révolution dans le système de santé. Et donc, le fait de numériser, si j'ose dire, des échanges et de fait d'avoir la télémédecine, on a forcément un dossier patient informatisé, c'est un plus qui permet justement, en particulier dans le cancer, où il faut forcément une expertise pluridisciplinaire, ça veut dire plusieurs spécialités, et ça c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement nouveau, et qui plus est, qui peut se développer sans beaucoup d'infrastructures,
ouais.
Puisque tout ça peut reposer sur un smartphone. Hein. D'ailleurs, dans une précédente épidémie d'Ebola, ça avait été suivi épidémiologiquement grâce à une application qui avait permis de montrer la propagation et d'intervenir beaucoup plus précisément et de manière beaucoup plus pertinente là où étaient vraiment les malades. Donc c'est quelque chose, effectivement, qu'on va apprendre à connaître et ça va créer beaucoup d'externalités positives.
Aussi réduire les coûts, éviter par exemple de déplacer les malades, de les emmener en Europe alors qu'ils peuvent être soignés sur place, oui ça là ?
Là ça c'est même les déplacements des médecins parce que le docteur Jean Michon, moi je l'ai eu longuement au téléphone donc on a dû raccourcir l'extrême et déjà le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique a déjà formé 300 personnes et c'est un plus et il nous expliquait que la première chose c'était d'installer Internet finalement. Et c'était ça la base. Une fois qu'il y avait une connexion Internet, on pouvait échanger des données, échanger de l'expertise. Et c'est très très important, surtout pour des populations qui sont reculées. Et on gagne du temps finalement en termes de... Pour faire un diagnostic, on gagne énormément de temps. Et surtout quand, dans des sujets comme l'oncologie pédiatrique. Et il nous expliquait justement que la formation, ils avaient déjà formé 300 personnes. Et que toutes ces formations aidaient finalement à avoir une nouvelle vision. Et surtout aider les populations locales à être finalement... que ces personnels de santé puissent s'autogérer directement et être formés directement sur le terrain.
Et au niveau des applications, est-ce qu'il y a beaucoup d'applications qui viennent d'Afrique
De plus en plus. On a des petites startups qui se créent au Ghana, en Afrique du Sud, au Zimbabwe. On a vraiment de plus en plus, il y a beaucoup de géolocalisation, c'est-à-dire retrouver une bonne pharmacie, c'est vraiment à la base. Et c'est vrai qu'il y a un vrai développement, il y a un vrai boom de startups ces dernières années du côté de l'Afrique.
Alors comment on pourrait conclure cette émission, Yannick Le Gouen, qu'est-ce que ça avait envie de dire pour terminer ?
Donc la télémédecine, c'est une nouvelle modalité, ce n'est pas la seule, effectivement, mais ça va, c'est comme quand nous avons découvert, nous, Internet, avec le partage, ça va offrir des usages dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la portée. Ouais. Ça, c'est clair. Bien évidemment, le sujet de l'expertise, beaucoup plus partagée, parce que dans la télémédecine, on a parlé beaucoup de la téléconsultation, mais il y a la télé-expertise, c'est-à-dire c'est entre médecins. Entre médecins, quand on veut avoir un avis un peu senior, etc., effectivement, ça permet de sur un cas un peu clinique, un peu limite, d'avoir un avis. Donc, c'est en développement. Je pense qu'il y aura toujours la nécessité d'avoir un lien physique, mais ça permettra sur... en particulier pour les gens qui ont des maladies chroniques, d'éviter de se déplacer chaque fois.
Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de la radio africaine. Un dernier mot, Salah ?
Non, la révolution digitale touche tous les secteurs, dont la santé. Il y aura 410 milliards investis d'ici 2022. Donc forcément, c'est un secteur d'avenir. Donc on va tous falloir s'y mettre un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive.
Bon, très bien, on se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Pour parler de notre application.
Exactement.
Merci à tous les deux. Merci, il est 9h56. C'est la pause sur la radio africaine. On se retrouve juste après pour la suite. Bougez pas.